Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour frère Baptiste Sauvage.
Bonjour.
Une série, un engagement pour vous, un engagement aussi, et c'est le défi, d'entrer plus en profondeur dans cette vie de prière, cette vie contemplative qui appelle au fond à cette union des cœurs, hein, et comme tous les saints du Carmel, et en particulier aussi cette figure que nous découvrons avec vous, de ce frère Carme, décédé il y a à peu près 10 ans, Wilfried Stinitzen, qui était... un grand spécialiste, on peut dire, de cette nuit obscure chez Jean de la Croix, qui était docteur de l'Église. Alors, qui dit vie de prière, vie contemplative, dit aussi vie apostolique, vie missionnaire. Alors, est-ce qu'on devient missionnaire du jour au lendemain, frère Baptiste, ou il faut laisser le temps, prendre du recul, partir en ermitage, en silence, être à l'école, peut-être des saints, à l'école de la prière, et ensuite, bien plus tard, on répond à l'appel.
Oui, c'est ça.
Ça se passe comment ? Voilà, donnez-nous des clés de compréhension.
Ce qu'on met derrière le terme missionnaire, on pourrait dire que dès qu'on prie, on l'est déjà, puisque par la prière, on permet au Christ de répandre sa grâce en nous, et donc elle rejaillit sur nos frères. Et il y aurait une autre acception du terme missionnaire, hein, qui serait celui justement de la mission au sens plus explicite, de l'annonce du Christ, et dans cette dimension-là, on voit bien que Jésus a préparé ses apôtres avant de les envoyer en mission, et donc il y a une préparation aussi pour nous avant d'être conduits à pouvoir témoigner plus explicitement. Peut-être que ce temps de préparation a pour but aussi de nous faire mûrir et peut-être aussi de nous prévenir de l'illusion selon laquelle la mission serait dépendante de notre activité, pour pas dire de notre activisme.
Est-ce que vous pouvez être plus explicite justement sur l'illusion de la mission ?
Ben le Christ est celui que l'on annonce, hein, et donc c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui est capable de produire un effet qui dépasse tout ce que nous pourrons faire par nos propres forces. Et donc la fécondité d'une mission ne dépend pas de la somme, on pourrait dire, des stratégies auxquelles j'ai pensé pour rejoindre ceux qui sont loin du Christ, mais elle dépend de sa seule grâce. Et donc c'est de ça dont il faut être vraiment convaincu, pour que ce soit lui qui passe plutôt que nous, et que ce soit lui qui touche les cœurs plutôt que nous cherchant à les séduire.
Donc vous donnez la définition d'un missionnaire qui est appelé à l'abandon total.
Oui,
ce n'est plus lui, mais c'est
ça.
Le bon Dieu qui missionne.
Tout à fait, c'est un peu la figure de Jean-Baptiste, hein. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Ou alors celle de saint Paul qui est tellement transformé dans le Christ qu'il dit bien, hein, qu'il est fixé à la croix et que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui et qui parle par lui, qui est missionnaire en lui.
Est-ce, je dirais, le point et le rendez-vous incontournable, le lieu de la croix ?
Oui, et c'est en ce sens aussi qu'il y a une préparation à la mission qui passe par la prière, puisque la prière va normalement nous faire mûrir sous, on pourrait dire, l'ombre de la croix, parce qu'il y a des périodes plus difficiles ou obscures dans cette vie de prière qu'il s'agit aussi de traverser. Et donc il y a quelques maîtres à nos côtés pour nous y aider. Et donc ce passage par la croix, il est de toute façon inéluctable. Et quand bien même un missionnaire ne serait pas encore parfaitement prêt, on pourrait dire que même dans les premiers essais qu'il pourrait faire, il rencontrera cette croix qui participera aussi à sa sanctification. Et là aussi, je pense que c'est un des critères d'un véritable missionnaire, c'est que d'une manière ou d'une autre, il doit être dérangé, parce que sa parole dérange toujours un petit peu.
Le missionnaire doit-il être prophète, hein ?
Voilà, alors oui. Effectivement, si on prend au sens de prophète cette qualité qui nous a été donnée à notre baptême de pouvoir annoncer la parole de Dieu, mais pour être prophète, il faut vraiment être d'abord celui qui écoute, qui se met à l'écoute de Dieu, qui se met par la méditation des Écritures, par cette vie d'oraison dont on parlait la dernière fois, et puis qui se met aussi à l'écoute des gens. Et ça, c'est quelque chose... qui est assez constant dans l'enseignement du frère Wilfried. Il montre bien comment cette vie de raison nous permet d'être attentif au cœur profond des gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler, mais s'il n'a pas cette sensibilité qui est aiguisée par une vie de prière intérieure, il aura plus de mal à toucher les cœurs. Alors que celui qui est entré dans cette intériorité, eh bien, va savoir écouter ce qu'une personne a sur le cœur et même parfois peut-être aussi deviner derrière les mots, derrière les attitudes, quelle est la parole qu'elle doit entendre. Et donc là aussi, je crois que c'est une des grandes qualités du missionnaire, c'est justement par sa vie de prière de pouvoir, parce qu'il est à l'écoute de Dieu, d'être à l'écoute du vrai désir des gens.
Et quels sont aussi les risques ? Et les dangers pour un missionnaire ?
Évidemment, celui de l'orgueil devant certains résultats ou la tentation du nombre. Essayer de chiffrer la fécondité au nombre de retours, par exemple. On voit bien sur les réseaux sociaux aussi une petite vidéo. Évidemment, elle a toute son importance et il faut que le message du Christ soit bien présenté. Mais si le missionnaire regarde plus le nombre de vues qu'il ne prie pour la fécondité de son œuvre et que ce soit le Christ qui passe, il y a peut-être un équilibre à retrouver. Voilà. Et puis, peut-être, ça irait dans le même sens, ce serait la tentation de l'activisme et donc de l'épuisement. Et là, un des signes assez clair qui serait indicateur de cet activisme, c'est justement l'impression d'être vidé. Normalement, un missionnaire doit plutôt parler par trop plein du cœur, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui en lui déborde, et c'est plus peut-être un soulagement de pouvoir déverser ce trop plein qu'un effort surhumain à faire. Donc là aussi, je crois que le critère de l'épuisement est aussi le signe d'un appel peut-être à la prière et au ressourcement.
Et un retour peut-être à la prière.
Et un retour s'il a été mis de côté.
Et le trop plein du cœur fait appel aussi à la grâce.
Exactement. C'est cette grâce qui est à l'œuvre dans ces moments d'intimité. Et c'est d'elle finalement que parle le frère Wilfried hein, quand il nous invite à découvrir cette phase que l'on appelle la contemplation. Où c'est elle qui devient prédominante dans notre vie de prière, d'où l'image d'un torrent qui se déverse depuis le centre de l'âme, ou d'une nuée qui nous recouvre et qui nous apaise. Ce sont tout un tas d'images qui rendent sensibles ou qui permettent de nous représenter ce qu'opère secrètement la grâce dans nos cœurs.
Vous parlez de la grâce qui s'opère secrètement. L'âme, le cœur, ne voit pas toujours
exactement
ce qui s'opère.
Oui,
c'est
et
ça.
Même le...
C'est intéressant.
Le paradoxe dont parle Jean de la Croix, c'est même de dire qu'elle agit d'autant plus en profondeur qu'elle est secrète. Parce que, généralement, quand on en remarque des effets, cette conscience des effets de la grâce ne touche que la périphérie de notre être, notre psychologie, alors que le lieu où elle agit à fond, si on peut dire comme ça, c'est justement dans une zone plus profonde qui échappe à l'investigation psychologique et qui est ce centre de l'âme, ce lieu où Dieu habite, et dans lequel on entre par un acte de foi obscur. Et donc, le régime d'action de la grâce, hein, c'est justement celui d'une action obscure qui dépasse les capacités de notre raison.
Mais au fond, une action transformante.
Transformante. Et là aussi, il y a quand même quelques signes qui nous montrent qu'elle est à l'œuvre. Hein. C'est que notre journée après avoir pris un temps de prière, quand bien même nous n'aurions rien senti, elle est vraiment transformée. Et on voit bien la différence entre une journée avec ou sans ce temps d'oraison.
Donc, senti, ressenti, hein. La vie de prière, c'est peut-être tout le paradoxe, c'est tout l'enjeu, durer dans cette fidélité.
Oui.
Et parfois dans un non-senti.
Oui. Ou alors dans un non-senti qui se pressent tout de même parce que c'est la fine pointe de l'âme, donc très délicat, très délicat. C'est une nourriture extrêmement précieuse, délicate, une fine dentelle. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'affinement de la sensibilité spirituelle. Et c'est à cet affinement-là que Wilfried, à l'école de Jean de la Croix, nous conduit.
Alors, à l'école de Jean de la Croix, à l'école du Carmel, à l'école des Saints du Carmel et à l'école de Wilfried Stinitzen, que nous découvrons avec vous, qui fut aussi un guide spirituel.
Oui.
Hein, oui, on va en parler, mais un peu plus tard dans cette série. Frère Baptiste Sauvage, je vous invite à vous retrouver ici même pour plonger avec vous, faire immersion dans cette vie contemplative. À demain.
À demain.